Morning Edition from NPR News.
Même si qui s'en vient de Haussi.
France Inter, le 18-20.
Ce soir, une chaîne humaine de 170 km de long le long de la côte libanaise du nord au sud. C'était hier dimanche. Une manifestation d'unité qui dure depuis le 17 octobre dernier. 11 jours d'un soulèvement populaire inédit au Liban. Hymne à plein poumon. C'est pas seulement la classe politique qu'on veut faire tomber, c'est tout un système et on y vient tout de suite. Le bruit du monde ou comment le Mexique traite mal ses propres migrants, les hommes et femmes d'Amérique latine, les Cubains qui n'arrivent pas à rentrer aux États-Unis. Et puis Estelle Schmitt nous parlera d'un bunker qu'on végétalise, figurez-vous, et qu'on transforme en hôtel. Ça se passe à Hambourg, 18h50, le monde selon Trump et Loïc Loury ce soir, avec une controverse qui monte au sujet de cette fameuse photo qu'a dévoilée Trump prise pendant le raid contre Al-Baghdadi. Puis 18h55, le monde à l'envers avec Cyril Sauvageau. Ce soir, l'extrême droite allemande, très extrême réellement, une grosse victoire hier sur laquelle on reviendra. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Jihad Madjen.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, essayiste, chercheur franco-libanais. On va parler évidemment de Liban ensemble. Mais très rapidement, je voudrais juste qu'on n'oublie pas qu'il s'est passé quand même quelque chose d'important ce week-end. Qu'on n'oublie pas que la tête de l'État islamique est donc mort. Alors on sait bien que la mort d'El-Baghdadi, Jihad Madjen, ne signe pas l'arrêt de mort de l'État islamique, loin s'en faut. Mais jusqu'à quel point le symbole compte aux yeux des gens de l'EI eux-mêmes, en fait, est-ce que la fin de la mythologie qu'il représentait, donc la mythologie de cet État, là, est-ce que vraiment pour ses adeptes ça compte?
Oui, certainement ça compte. C'est un acte très symbolique, en fait, décapiter l'État islamique dans un sens. Mais il faut savoir que c'était le cas aussi avec Al-Qaïda, avec l'assassinat ou le meurtre de Ben Laden durant l'opération en 2011, et que Al-Qaïda a survécu à sa mort, même si elle a perdu un peu de sa puissance de séduction par rapport aux djihadistes. Maintenant, pour l'État islamique, c'est vrai qu'ils avaient transformer le djihad en une emprise territoriale et non pas seulement en un militantisme qui va au-delà de la territorialité des causes. Et la mort de Baghdadi, qui s'est proclamé khalifa, est très importante. Mais en même temps, cela fait quelque temps qu'il a disparu, qu'il est en clandestinité. Et il y a probablement une relève
alors,
au sein de cet état-là.
J'allais vous poser la question, au fond, pardon de le dire comme ça, est-ce qu'il servait encore à quelque chose, Baghdadi, ou pas? Le symbole même marchait toujours ou finalement même plus?
Non, même plus. À la différence de Ben Laden, qui n'avait jamais exercé un pouvoir direct territorial et qui restait plutôt un symbole transfrontalier, le cas de Baghdadi était relié à la barbarie de l'État islamique dans le contrôle que cet État a exercé en Syrie et en Irak. Donc, depuis qu'ils ont perdu le contrôle, il est juste un clandestin qui essaye de survivre et de fuir ses ennemis.
Moi, je m'étonne qu'on l'ait trouvé dans la région d'Idlib, en fait. Est-ce qu'il faut s'étonner de ça? Alors, il y a une thèse qui dit qu'il était en train d'essayer de passer quelques accords avec Al-Qaïda, qui lui-même, d'ailleurs, avait été siphonné par l'État islamique. Qu'est-ce qu'il faisait à Idlib? Ou au fond, peut-être que la meilleure manière de se cacher, c'est de pas aller bien loin, aller savoir. C'est peut-être aussi la seule raison.
Alors, il y a deux choses. Comment il a réussi à arriver à Idlib déjà? Idlib, elle est assiégée par le régime syrien, les Russes et les Iraniens. Donc, il a traversé tout le désert pour rentrer à Idlib.
Peut-être dans un flot, puisqu'il y a beaucoup de djihadistes qui, dans le même flot, sont partis jusqu'à Idlib.
Non, en fait, il n'y a pas eu beaucoup de djihadistes qui sont partis jusqu'à Idlib. Et en plus, à Idlib, ce sont les djihadistes qui sont ses pires ennemis. Et certains évoquent le fait que c'est à travers eux que les services turcs ont réussi à comprendre qu'il peut être dans cette zone-là. Il se cachait dans des vannes de légumes et de fruits. Et leur coopération avec les Américains a mené à l'opération. D'autres évoquent les services irakiens qui avaient arrêté un de ses aides et qui a évoqué sa présence à Idlib. Et c'est un peu surprenant qu'il a réussi à arriver dans cette enclave
et en effet,
où il a surtout
dites,
des ennemis que des alliés. Peut-être c'est parce qu'il a des ennemis là-bas qu'il pensait qu'il allait passer inaperçu pour les Américains en se cachant et en se montrant comme un des réfugiés ou des déplacés internes syriens.
Ziad Majed, vous l'avez un peu évoqué, quand Zarqawi est mort en 2006, donc à la tête de d'Al-Qaïda en Irak, l'État islamique au fond est né sur ces cendres-là en fait. Quand Ben Laden est mort, l'organisation, vous l'avez dit, était déjà en perte de vitesse, mais elle a su se reformer ici et là. Qu'est-ce qui se passe après la mort de Baghdadi? Est-ce qu'il y a vraiment une succession qui est prête, ou est-ce qu'il y a une guerre au couteau qui va se faire aussi entre différentes factions de l'État islamique?
Zarqawi en Irak, qui était jordanien lui-même, était un peu l'antithèse de Bin Laden. Il voulait un contrôle territorial, et Baghdadi est beaucoup plus la continuité de Zarqawi que celle de Bin Laden. Mais Al-Qaïda a survécu à la mort de Bin Laden. Baghdadi est venu après un deuxième Baghdadi et Zarqawi. Et là, on évoque déjà la possibilité d'un Irakien qui est de la ville de Tal Afar. Les services irakiens disent qu'il est l'homme fort maintenant.
Comment il s'appelle?
J'ai oublié le nom parce que c'est un nickname, c'est pas le vrai nom.
D'accord, c'est un surnom.
Il a été prisonnier pendant 8 ans. Pendant 4 ans, pardon. Et avant cela, il était officier de l'armée irakienne de Saddam Hussein, qui a été dissoute par l'occupation américaine. On dit qu'il est l'homme fort du moment, mais en même temps, il y a autour de Baghdadi des possibles trahisons qui montrent que finalement, ça ne va pas être si simple que ça, et que de toute façon, la rivalité entre les groupes djihadistes est tellement importante aujourd'hui que le paysage djihadiste est très éclaté.
Et justement, est-ce qu'il y a besoin, ce sera la dernière question là-dessus, est-ce qu'il y a besoin d'une tête au fond dans cette EI qui est devenue très éclatée pour fonctionner, qu'on trouve effectivement dans beaucoup de parties du monde aujourd'hui? Est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une tête, en fait?
Non, en fait, une des forces de ce djihadisme-là, c'est qu'il n'est pas centralisé, c'est que c'est une nébuleuse qui arrive à apparaître là et là. Le passage à l'acte est tellement rapide et il ne nécessitant pas toujours une préparation idéologique ou même logistique. L'exception de l'État islamique, c'était la taille du territoire quand même et du nombre d'habitants qu'ils ont contrôlé et géré pendant 4 ans à peu près ou 3 ans et demi. Maintenant, cela est derrière nous. Il peut y avoir encore des groupes qui sont très mobiles, et d'où la décentralisation et d'où le fait que c'est beaucoup plus un impact symbolique aujourd'hui qu'au niveau de l'organisation et de la hiérarchie.
C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de répondre de qui que ce soit désormais lorsqu'on commet un acte terroriste. Ça fait longtemps d'ailleurs qu'on ne répond plus même de Baghdadi au fond.
Exactement. Et même, il peut ne pas être au courant. C'est tellement décentralisé que les gens prennent les décisions et puis peuvent se réclamer de l'État islamique, ou l'État islamique lui-même considère qu'ils sont certains de ses soldats.
On ne perd pas évidemment cette affaire de vue, d'autant qu'il y a une réunion prévue à Washington le 14 novembre prochain autour de tous les coalisés au fond contre l'État islamique, une réunion à la demande de la France d'ailleurs. Allez, je voudrais quand même qu'on parte pour le Liban, Ziad Majed. L'image de ce week-end, je le disais, c'est cette fameuse chaîne humaine, 170 km, toutes confessions confondues. On est au 11e jour de soulèvement, un soulèvement inédit, et il l'est de plus en plus au fond parce qu'on ne retrouve rien des clivages qu'on connaissait autrefois du Liban, des clivages confessionnels dans lesquels au fond on avait enfermé le Liban. Il est en train de nous dire tout à fait autre chose, ce pays aujourd'hui.
C'est exactement cela aujourd'hui, c'est que les anciennes grilles de lecture doivent commencer à évoluer par rapport au Liban, on doit utiliser un autre logiciel. Ça peut être temporaire, ça peut durer. Si le mouvement se consolide, on sera vraiment dans un moment de dépassement du confessionnalisme politique qui a enfermé le Liban au niveau de son système, au niveau de sa société, mais même au niveau de l'analyse de ce qui se passe dans ce pays. C'est la première fois qu'un mouvement de mobilisation populaire se tient dans la rue. Et pas seulement à Beyrouth, mais dans toutes les régions libanaises.
Et y compris au sud, on va y venir.
Y compris au sud, dans le nord, dans les régions autour de Beyrouth, à l'est du pays, dans la Bekaa. Ce qui permet, à travers cette décentralisation-là, une mobilisation dans chaque région contre les représentants de la région et de sa communauté majoritaire sur le terrain. Et en même temps, des slogans qui sont les mêmes partout, du sud au nord, évoquant la nécessité de dépasser le confessionnalisme, parlant de la citoyenneté, parlant des droits des femmes, parlant de la justice sociale, de la guerre à la corruption et aux clivages qui ont pendant très longtemps fragilisé la société libanaise.
L'étincelle, on le sait, c'est cette fameuse, les communications WhatsApp qui ont été taxées, qui d'ailleurs ne le sont plus derrière immédiatement, mais peu importe, c'est juste l'étincelle. Mais pour que ça marche là, en tout cas ces 11 derniers jours, ça veut dire que ça couvait très sincèrement ce ras-le-bol contre le système, contre le découpage confessionnel dont on parlait. Est-ce qu'on l'a pas vu venir, on l'a pas vu monter, ou est-ce qu'au contraire le système était capable jusque-là de l'étouffer? Pourquoi il ne l'est plus aujourd'hui?
Le système était exactement capable de l'étouffer, capable d'absorber les chocs. C'est un système rigide, avec des élites politiques qui ne sont jamais renouvelées. Ça fait depuis 92 que le chef du Parlement est le même. Le fils Hariri a pris la relève après l'assassinat de son père. Michel Aoun était déjà candidat à la présidence en 1988. Une bonne partie des parlementaires et des ministres sont issus de familles féodales qui est dans le système politique depuis les années 60. Donc, ils ont toujours réussi à travers le clientélisme à se distribuer la rente, à acheter des loyautés, le système électoral les aider. Et le fait qu'il y a des élites maintenant qui, depuis la fin de la guerre, monopolisent la représentation confessionnelle, à chaque fois qu'il y a un clash politique, ils mobilisent derrière eux des sentiments de solidarité communautaire, comme si les autres veulent prendre de leur part du gâteau et de leur place au sein du système. Cette fois, à la fois, le système n'arrive plus à distribuer à ses réseaux de clientélisme de la même manière, parce que la corruption, la mauvaise gestion, le manque de revenus, les crises dans la région ont fait que l'économie n'est plus en train de se développer. La nouvelle génération ne veut plus répéter les erreurs des anciennes générations et veulent un mouvement, elle veut un mouvement qui va au-delà des anciens clivages par rapport aux grandes questions stratégiques pour se contenter de ce qui est libano-libanais pour le moment.
Et en cela, on retrouve des relents de ce qu'on lit en Algérie aujourd'hui.
Absolument.
D'une certaine façon, dans d'autres pays, on a l'impression d'une espèce de deuxième vague de révolution arabe. Est-ce qu'on dit qu'il y a une deuxième vague de révolution arabe aujourd'hui ou
oui, on peut certainement le dire. Il faut rappeler qu'il y a eu...
Je pense à la Libye, je pense au Soudan, je pense
Soudan,
à des endroits comme ça.
L'Algérie, l'Irak.
L'Irak.
Il y a des grandes mobilisations, notamment dans le sud du pays à majorité chiite, mais avec des revendications citoyennes et contre les élites qui gouvernent en Irak et qui sont chiites elles-mêmes. Dans le cas libanais, comme dans le cas algérien, comme dans tous ces cas-là, il y a toute l'accumulation des dernières années. Il y a un travail qui a été fait au niveau de la société civile, soit à travers des réseaux culturels, soit à travers des campagnes dans le cas libanais contre la corruption. Et puis, il y a une nouvelle génération qui, avec les réseaux sociaux, avec le savoir-faire, avec des slogans vraiment libérés de tout tabou, essaye aujourd'hui d'imposer un nouveau mot d'ordre dans la rue.
Et ce qui est intéressant, c'est que on parlait de ce mouvement qui n'existe pas qu'à Beyrouth, c'est qu'aussi dans les fiefs du Hezbollah. Par exemple, le Hezbollah est très fragilisé. On dit exactement la même chose. Il y avait cette espèce de relation très paternaliste, au fond, de Nasrallah, notamment vis-à-vis des gens dans le sud Liban. Est-ce que ça aussi a explosé en même temps? Est-ce que ça aussi, ça tient plus, en fait?
Oui, ça c'est, en fait, pour beaucoup de Libanais, ils pouvaient s'attendre à une colère populaire à travers, après tous les scandales, après les crises économiques, après l'impunité des gens accusés de corruption depuis de longues années. La grande surprise, c'est ce qui se passe dans le nord du pays, dans la ville de Tripoli, mais surtout dans le sud, parce qu'on avait toujours l'impression que Hezbollah, c'est l'acteur qui soude le plus sa communauté, qu'il avait plus de légitimité que les autres, parce que pour
et
ça...
Et qu'il est mieux tourné vers le peuple, c'est l'idée qu'on pouvait en avoir.
Oui, et que Nasrallah, par exemple, et d'autres, ne sont pas issus de familles féodales, traditionnelles, de notables, mais en même temps, la crise économique, le sentiment que Hezbollah, dans sa coalition gouvernementale, couvre la corruption s'il n'est pas directement impliqué, fait que les gens, même au sud, veulent la chute du régime, y compris la fin de toute coalition et le rôle du Hezbollah qui s'est imposé pendant des décennies.
Vous avez parlé de génération, Ziad Majed. Moi, j'ai lu dans certains papiers qu'on parlait d'une citoyenneté libanaise, en fait, comme si on retrouvait au fond ce qu'était la citoyenneté libanaise, au-delà effectivement des confessions diverses, donc débarrasser de tout ce poids religieux. Pour cette génération-là, ça représente quoi, en fait, l'époque de la guerre civile, et y compris d'ailleurs un Nasrallah dans le sud avec sa figure de résistant face à Israël? Est-ce que tout ça, ça parle à une jeune génération ou pas du tout?
Non, pour cette génération, d'ailleurs, l'un des slogans les plus présents dans la rue, c'est que vous êtes la guerre civile, parlant à la classe politique, et nous sommes l'après-guerre civile, et nous sommes le peuple. Cette génération-là n'est pas née durant la guerre civile. Elle considère que les chefs guerriers sont toujours au pouvoir. Pour elle, la résistance contre Israël avait sa légitimité durant l'occupation, mais aujourd'hui, on ne peut plus justifier ni la corruption, ni l'absence de politique sociale, ni la coalition du Hezbollah avec tous les corrompus, juste en parlant de résistance contre Israël. Donc le chantage que vous pouvez exercer, Hezbollah n'est plus là, et tout le monde parle de toute la classe politique, sans exception, pour la première fois dans l'histoire du pays.
Alors du coup, on réclame des élections anticipées, mais je poursuis ce que vous êtes en train de dire. Qui oserait lâcher, en gros, est-ce que Hariri, mais les autres, oseraient lâcher le pouvoir pour d'autres élections? Et surtout, qu'est-ce qui se passe derrière, en fait? Est-ce que ça existe, une relève politique au Liban?
Alors, tout le dilemme est dans cette question-là. Jusqu'à maintenant, les manifestants n'ont jamais réclamé comme priorité des élections. Ils veulent la chute du gouvernement, la formation d'un gouvernement de transition qui commence un chantier de réforme, et ils parlent des élections plus tard. La classe politique a intérêt à aller vers des élections. Mm-hmm. Parce qu'avec la loi électorale actuelle, avec ce qui reste de l'argent de l'État, avec les médias qu'il contrôle, avec le clientélisme qui est là, un peu maintenant caché, mais qui peut de nouveau émerger, mm-hmm. ils peuvent gagner des élections parce que dans la rue, il n'y a pas encore une alternative bien élaborée, bien construite. Ça va venir avec le temps.
Il n'y a pas de leader non plus, d'ailleurs.
Et la relève, elle est parmi les étudiants, parmi les femmes, les mouvements de femmes, parmi les intellectuels, parmi beaucoup de personnes qualifiées à jouer un rôle bientôt
il y aura
au sein de l'État.
Une tentation, j'imagine, de diviser la rue, précisément. Est-ce que ça a commencé, non
ou Oui, pas le système, le régime, compte sur la fatigue, l'essoufflement, mm-hmm. Sur les contradictions qui peuvent commencer à apparaître entre ceux qui ont comme priorité le changement politique, d'autres, pour des raisons économiques, mm-hmm. et à cause de la crise et de la pauvreté, ont comme priorité des réformes économiques et sociales. Donc, il peut compter sur un début aussi de contradictions, de disputes mmh. entre radicaux, entre ceux qui veulent des compromis. Il veut coopter une partie des gens dans la rue. Ça, c'est sa seule option. Mais s'ils veulent des véritables réformes, c'est comme si on les appelle à commettre un suicide. Parce que ni Hariri, ni Nasrallah, ni Berri, ni Aoun ont intérêt à ce que le système change. Ils ont tous besoin de l'État pour les couvrir et ils ne veulent pas que l'État fonctionne différemment.
Une toute dernière chose, Ziad Majed, il y a des images qui ont fait trois fois le tour des réseaux sociaux ce week-end, ce sont les soldats qui fraternisent. Il y a cette oui. fameuse image de ce soldat qui en pleure parce mmh. qu'il ne veut pas être contre ces manifestants. Est-ce que ça compte vraiment? Et est-ce que surtout ça a été une surprise peut-être? Parce que est-ce que le pouvoir se disait on va nettoyer la rue avec les militaires et ce sera vite fait, bien fait? Est-ce que c'est une vraie surprise et est-ce qu'on peut dire qu'il peut se passer quelque chose du côté de l'armée ou pas?
Non, l'armée n'est pas une surprise au Liban en tant que comportement anti-répression mmh. parce qu'elle n'a jamais été un acteur politique. C'est toujours le chef de l'armée qui a des ambitions politiques. Mmh. Il est un des candidats mmh. à la présidence, d'où sa nécessité aussi de ne pas se heurter à la rue. Et les soldats sont aussi les victimes de la même crise économique et ne peuvent pas attaquer les mmh. manifestants. L'armée libanaise peut être un peu comparée à l'armée tunisienne, mmh. Contrairement à l'armée syrienne, égyptienne, algérienne, mmh. qui détient le véritable pouvoir. Mais ce que le gouvernement espère, c'est que s'il y a une contre-mobilisation, peut-être le Hezbollah, mmh. qui est toujours capable de mobiliser dans la rue, il peut demander à l'armée, non pas d'attaquer les manifestants, mais de demander à tout le monde de quitter la rue mmh. Afin d'éviter le chaos ou les affrontements civils. Donc là, l'armée sera dans l'obligation peut-être de demander un couvre-feu, mais on n'est pas là encore. Et pour le moment, tout reste pacifique. Ils occupent la rue. Aujourd'hui, ils ont coupé les axes routiers avec leurs meubles qu'ils ont amenés des maisons. Mmh. Pour montrer qu'ils veulent se réapproprier l'espace public et le transformer en une maison citoyenne libanaise.
Et c'est ce qu'on suit avec beaucoup, beaucoup d'attention. Merci mille fois, Ziad
Majed.
Merci de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saintès, sur France Inter.
Un jour dans le monde, la suite, c'est le bruit du monde au Mexique qui reçoit mal les Sud-Américains renvoyés par l'Amérique. Et vous, Estée Schmitt, vous allez nous parler du recyclage au fond d'un bunker nazi.
Mais oui, que faire des encombrants bâtiments héritage de l'époque nazie? On donnera la réponse.
On voit ça dans un instant. Le Monde selon Trump, saison 3 et Loïc Loury. Loïc, elle fait parler d'elle, décidément, cette photo de Trump prise pendant l'attaque contre al-Baghdadi.
Oui, absolument. Et pour une fois, c'est Donald Trump qui est victime d'une fake news après ce raid. Mais non, le président ne jouait pas au golf, Fabienne, lorsque l'opération a débuté.
Et on voit ça ensemble tout à l'heure. Le Monde à l'envers. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Quand l'extrême droite gagne en Allemagne, c'est une extrême droite très extrême, on va dire.
Exactement. Stratégie gagnante pour l'extrême droite qui est toujours plus radicale, quitte à flirter avec les néo-nazis.
Allez, à tout de suite. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par le nord du Mali, figurez-vous. Tinariwen. Quel Tinawen, c'est le titre, c'est sur France Inter. À tout de suite.
سما ناتجي شما وهاتكشم لو انهار الدمدم تيكر مؤتين تغتنجم
Le bruit du monde ce soir nous emmène au Mexique parmi les migrants d'Amérique centrale et de Cuba qui attendent là une autorisation américaine d'asile qui se fait de plus en plus rare. Plus de 50 000 migrants sont ainsi bloqués au Mexique, dont 15 000 dans la seule ville de Ciudad Juárez qui est sur la rive droite du Rio Bravo, pile en face d'El Paso au Texas. De nouvelles règles sont régulièrement mises en place du côté des États-Unis. La Cour suprême américaine, par exemple, a validé l'idée de refuser l'asile à tous ceux qui ne l'ont pas sollicité. Tenez-vous bien, dans chaque pays traversé, qui fait ça quand on fuit devant la violence des gangs, par exemple? Emmanuel Steele nous emmène à Ciudad Juárez.
Le pont Paso del Norte relie la ville mexicaine de Ciudad Juárez à El Paso, au Texas. C'est un va-et-vient permanent entre les vendeurs ambulants, les files de voitures et de travailleurs transfrontaliers. Au milieu du pont, les officiers de la patrouille frontalière américaine réceptionnent les demandeurs d'asile. Parmi eux, Fernando, un jeune qui a fui l'Honduras il y a 7 mois avec sa mère et ses cousins. Un départ précipité. Le garçon de 17 ans échappait au recrutement forcé d'un gang criminel.
Ils allaient m'obliger à participer à des vols, à des enlèvements. Moi, je ne voulais pas. Mais ils m'ont donné 4 jours pour leur donner une réponse et si je n'acceptais pas, ils me tueraient. C'est pour ça que nous sommes partis le troisième jour.
En contrebas du pont, deux femmes, dont l'une porte un bébé dans les bras, se collent à la grille, côté américain, avant de se livrer à la patrouille frontalière. Beaucoup de migrants ignorent qu'une telle traversée est illégale et nuira à leur demande d'asile. Ceux qui veulent suivre les règles imposées par le gouvernement américain doivent patienter des mois à Ciudad Juárez. Le refuge du Bon Samaritain, dans un quartier modeste aux rues poussiéreuses, accueille 160 migrants en attente, pour la plupart des Centrafricains. Doris, Adan et leur fils de 12 ans ont été renvoyés des États-Unis à la mi-septembre après avoir traversé par le désert. Ils n'avaient jamais songé à quitter le Salvador jusqu'à ce qu'un gang tente d'enrôler l'adolescent. Maintenant, ils attendent leur audience d'asile devant un tribunal américain. Ils ne pensaient pas être reconduits à Ciudad Juárez.
On pensait que si on se faisait attraper aux États-Unis, on pouvait attendre là-bas. Mais l'officier de l'immigration nous a dit que cela avait changé. Être envoyé ici, ça a été un choc pour nous. On ne s'y attendait pas du tout. C'était un coup de poignard. On se sent impuissant, comme si on nous avait ligotés pour nous empêcher de bouger.
Dans un autre refuge, des représentants d'une ONG américaine expliquent aux migrants qu'ils seront renvoyés à Ciudad Juárez entre chaque audience. L'avocate Tania Guerrero condamne ce système qui fait des villes frontalières mexicaines de dangereuses salles d'attente pour les demandeurs d'asile.
Ce n'est pas seulement à Ciudad Juárez, c'est toute la frontière. Des villes comme Nuevo Laredo, Reynosa, Mataramos, Tijuana sont extrêmement dangereuses. C'est là que les migrants sont renvoyés, en vertu de ce soi-disant protocole de protection des migrants. C'est tout l'inverse d'un programme de protection en réalité. On en fait des cibles faciles d'agression, d'exploitation, d'enlèvement. Il y a beaucoup de kidnapping de migrants.
On nous lâche dans la gueule du loup, affirme Yadelki, une femme cubaine qui revient avec son mari de leur premier entretien côté américain. Elle a déjà été agressée à 2 reprises à Ciudad Juárez, une ville qui s'est bâtie une réputation sinistre en matière de crimes contre les femmes. Le directeur du département des droits de l'homme de la mairie, Rogelio Pinal, juge irresponsable la politique migratoire des États-Unis.
C'est néfaste de nous obliger à bloquer ces personnes à la frontière. Elles ont le droit de présenter leur demande d'asile directement devant les autorités américaines. Mais au lieu de cela, nous devons les retenir ici pour le confort des services migratoires américains. Ce n'est pas notre rôle. Et si les États-Unis vivaient un jour une situation grave et que les habitants devaient se réfugier au Mexique, que se passerait-il? C'est comme si nous allions leur dire « Ah non, ici nous ne voulons pas de vous, allez dans un autre pays, au Mexique, vous êtes indésirables. »
Ciudad Juárez est le rendez-vous des migrants accablés, ceux qui peinent à suivre le rythme des nouvelles restrictions qui sont sans cesse mises en place par les États-Unis et ceux qui sont déboussolés par l'attente de plusieurs mois ponctués de discours politiques hostiles. Certains demandent l'asile au Mexique ou rebroussent chemin vers leur pays d'origine. D'autres traversent illégalement. Tous savent que le mur de Trump existe et que leurs chances sont maigres d'être acceptés de l'autre côté.
Emmanuel Stills au Mexique, à Ciudad Juárez pour Un Jour dans le Monde. Merci beaucoup, à très vite. Le bruit du monde, la suite, c'est sous les radars. C'est Elstead Schmitt et c'est maintenant. Il y a des travaux, Estelle, autour de nous. L'Allemagne, face à ces bunkers hérités de l'époque nazie, eh bien à Hambourg, c'est là que nous sommes, l'un d'entre eux est en travaux pour devenir un hôtel de luxe. Ce sera prêt en 2021.
Oui, des tonnes de béton, 35 mètres de haut, 75 de large. Imaginez détruire ces flammes turneux, ces blocos anti-aériens. Eh bien, ça nécessiterait tellement d'explosifs que ça risquerait de détruire une grande partie du quartier. Et notamment cette tour numéro 4, le bunker Saint-Paul en forme de château qui a abrité près de 25 000 Allemands pendant les bombardements de l'été 43. Dans les années 50, il a abrité un centre de médias, plus récemment un espace de travail pour musiciens, encore une discothèque, mais forcément mêler le festif avec la lourde histoire, d'autant qu'un millier d'ouvriers a été forcé de construire ce bunker en 300 jours. C'est pas du goût de tout le monde. D'où l'idée de moderniser avec toujours un œil sur le passé. Une chaîne d'hôtellerie espagnole a donc lancé un chantier de construction d'un hôtel chic. 136 chambres luxueuses au sommet du bunker avec vue imprenable sur la ville, mais également un jardin à étages qui lui sera ouvert au public. Et une association compte aussi aménager un espace commémoratif pour expliquer le passé de ce lieu. Histoire aussi de faire oublier plusieurs réhabilitations ratées, c'est vrai, d'anciens complexes nazis, comme toujours à Hambourg, l'ancien quartier général de la Gestapo, aujourd'hui transformé en boutique, appart de luxe, mais sans un mot sur l'histoire du bâtiment, choquant pour certains, surtout quand on sait qu'on y a massivement pratiqué la torture.
Allez, direction la Jordanie, où les femmes peuvent rester en prison pendant parfois des mois sans procès sur simple accusation d'un homme.
Oui, situation dénoncée par Amnesty International dans un rapport publié il y a quelques jours et qui est due au système de la tutelle. En clair, les femmes ont besoin de l'autorisation d'un homme, évidemment, pour des choix qui peuvent nous sembler à nous anodins. Et c'est en cas de désaccord avec le tuteur que les problèmes commencent. Elles peuvent être emprisonnées sans être jugées, simplement pour avoir désobéi, c'est le terme utilisé. Sosane, par exemple, elle est citée dans le rapport d'Amnesty. Elle a été incarcérée pendant plus d'un an parce que son père était allé raconter aux autorités qu'elle s'était enfuie avec un homme, alors qu'en fait, elle fuyait son propre père et ses abus. Elle raconte qu'elle a été arrêtée dans la rue à Amman, elle n'avait pas ses papiers, se retrouve au poste, et les policiers y trouvent au poste un mandat d'arrêt car elle avait été déclarée absente par son père. Elle a donc été détenue jusqu'à ce que ce dernier, son bourreau, donc, paye la caution pour sa libération. Amnesty International et sa directrice générale au Moyen-Orient, Eba Morayef, montrent l'état du doigt.
On parle aujourd'hui de responsabilité du gouvernement jordanien, dit-elle, envers les citoyennes, à leur assurer une vie sans violence, sans maltraitance et sans détention arbitraire, aussi à respecter leur droit à agir et ne pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Et Amnesty pointe ces dizaines de femmes également incarcérées pour avoir eu des relations sexuelles hors mariage, dénonce aussi des pratiques contre ces femmes emmenées par la police pour subir des tests de virginité ou encore de ces bébés à peine nés confisqués à leur mère car considérés comme illégaux tout simplement, et bien parce que le mariage de leurs parents n'a pas été validé par le tuteur de la femme. L'État jordanien lui reconnaît ses emprisonnements mais il assure qu'il place ces femmes en prison pour leur propre protection.
Allez, une remise de prix dans un tout autre style, Estelle, où on a vu l'un des récompensés revêtir de la tête jusqu'aux griffes un costume du chat Garfield.
Oui, mais signe qu'il se prend surtout pas au sérieux, ce chat. Alors, c'était ce week-end à Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, c'est dans l'est de la Chine, le Pineapple Science Award, le prix scientifique de l'ananas, autrement dit le prix de la découverte la plus bizarre, une découverte qui est faite à chaque fois dans le cadre d'une recherche, elle, très sérieuse. Alors ce scientifique déguisé en chat a par exemple prouvé, me demandez pas comment ni pourquoi, que les langues des chats sont plus efficaces que les brosses justement pour brosser. Un autre a aussi démontré que les dinosaures souffraient de spondylose cervicale, c'est une dégénérescence des os du cou. Pas de découverte révolutionnaire, c'est vrai a priori, mais elles mettent avant tout en avant la curiosité et les organisateurs de ce prix espèrent rendre la science plus simple et plus accessible aussi au grand public.
Voilà, un scientifique déguisé en chat, moi je m'excuse mais je peux pas cautionner ça. Allez, merci beaucoup Estelle, on se retrouve sérieux. Évidemment demain. Marvin Gaye entend parler la vigne, lui, I heard it through the grapevine. Allez, Marvin Gaye sur France Inter. Tiens, en voilà un autre qui pourtant boit surtout du coca.
France Inter. Un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Le Monde selon Trump, saison 3, et Loïc Loury, voilà un Donald Trump, Loïc, victime d'une fake news, ou pas d'ailleurs, on va y revenir. Le président en tout cas est pris à son propre jeu, après le raid mené ce week-end contre Aboubakar al-Baghdadi, dont on parlait tout à l'heure dans Un jour dans le Monde. L'histoire qui fleurit depuis hier sur les réseaux sociaux, c'est que Trump revenait d'une partie de golf alors que l'opération débutait, et tout est parti de la fameuse photo, Loïc.
Oui, ce cliché très partagé de Donald Trump entouré de son état-major. On est dans la Situation Room, la salle de crise de la Maison-Blanche. Les visages sont graves. L'opération est en cours contre Aboubakar al-Baghdadi. Sauf que ce cliché serait, selon certains en tout cas, une pure mise en scène au-delà même de la dramaturgie, politique propre à ce type de photo. C'est Pete Souza qui l'a suggéré. Il a été le photographe emblématique. On s'en souvient de Barack Obama. Il avait pris d'ailleurs le fameux cliché de l'ex-président qui assistait lui à la traque et à la mort de Ben Laden. Le parallèle, bien sûr, est intéressant. Pete Souza donc a posté hier un message sur Twitter, relayé 21 000 fois. Il y affirme, en citant les métadonnées contenues dans la photo de Donald Trump, que celle-ci a été prise vers 17h, Fabienne, alors que le raid contre Baghdadi aurait eu lieu, toujours selon ce tweet, à 15h30.
Et il n'en fallait pas plus donc pour inspirer les histoires les plus farfelues.
Et notamment parce que des petits malins se sont rendus compte, grâce à un site qui traque les déplacements du président, qu'à 15h30, eh bien Donald Trump rentrait d'une partie de golf, de quoi accréditer a priori l'idée d'une photo complètement bidonnée. Mais tout cela en fait ne repose sur rien ou presque, et c'est Pete Souza lui-même, après avoir allumé cet incendie, qui a tenté de se dédouaner. Je n'ai jamais dit, affirme-t-il sur Twitter, que c'était une mise en scène. Il précise aussi, après avoir consulté un article du New York Times, que les hélicoptères n'avait décollé pour la Syrie qu'à 17h et que Donald Trump était donc sans aucun doute présent dans la salle de crise avant l'opération. Le président américain en tout cas a fait l'expérience de la fake news, et on peut dire que sa photo de Situation Room, assez ridicule du point de vue de la mise en scène, car il s'agit évidemment de communication politique, ne l'a pas franchement aidé, qu'il suffise de la comparer avec celle de Barack Obama en 2011.
Et ouais, et cette opération en tout cas, Loïc, on va évidemment continuer à en entendre parler. Trump aimerait bien en récupérer le crédit politique.
Et oui, hier, il présentait cette opération comme la plus grande victoire possible pour les États-Unis. Il a même assuré aux journalistes qu'elle était plus importante que celle qui avait conduit à la mort d'Oussama Ben Laden en 2011. Donald Trump est en difficulté actuellement. On le sait, il veut imposer ce succès dans l'actualité plutôt que la procédure de destitution en cours contre lui. Résultat, il en parle. Il en a encore parlé il y a 2 heures, un peu hors sujet d'ailleurs, lors d'une convention de la police.
Comme vous le savez, ce fut un week-end formidable pour notre pays. Nous avons tué le leader de Daesh, al-Baghdadi. C'était un homme malade et dépravé. Et maintenant, il est mort. Il est mort, complètement mort.
Voilà, littéralement, Fabienne, on a traduit complètement mort, mais Baghdadi est aussi mort qu'un clou de porte. C'est l'expression qui a été employée par Donald Trump, qui se diversifie mais continue avec cette rhétorique violente, assez peu présidentielle. Al-Baghdadi est mort comme un lâche, comme un chien, disait-il hier, au risque d'aller trop loin. Et il dit désormais envisager de publier des extraits de la vidéo du raid en question.
Et, mais bien sûr, alors pas sûr en tout cas, Loïc, quand même, que le gain politique soit très élevé pour Donald Trump.
Et non, et notamment parce que cette opération n'est pas exempte de polémique. Nancy Pelosi, en particulier la chef de file des démocrates, critique Donald Trump pour avoir informé les Russes, mais pas les ténors du Congrès, notamment démocrates, comme c'est la tradition lors de ce type d'affaires. Enfin, il n'aura pas franchement fait oublier qu'il y a quelques semaines à peine, il avait provoqué une crise au Moyen-Orient en annonçant le retrait américain de la région. Richard Haass, qui préside un think tank non partisan, l'analyse de cette façon. L'ironie de la réussite de l'opération contre al-Baghdadi, dit-il, c'est qu'elle n'aurait pas pu être menée sans les forces que Donald Trump voulait retirer, sans l'aide des Kurdes qui ont été trahis, ni sans celle enfin des services secrets dépréciés depuis des années par le président américain. En clair, en somme, cette réussite, ce n'est pas celle de Donald Trump, dit-il, c'est bien au contraire.
Merci beaucoup, Loïc Loury, avec nous depuis New York.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde à l'envers et Cyril Sauvageau. Ce soir, Cyril, en Allemagne, l'extrême droite n'avance plus masquée. C'est une nouvelle claque électorale pour Angela Merkel et sa coalition. Aux élections régionales ce dimanche, dans l'est de l'Allemagne, l'extrême droite a terminé en deuxième position en réalisant l'un de ses meilleurs scores, 23,5%. Depuis plusieurs années, on a le sentiment que les élections locales se suivent et se ressemblent outre Rhin. Et pourtant, Cyril, ce scrutin-là, il est quand même encore plus riche d'enseignements, peut-être.
Ah oui, la principale leçon à tirer de cette nouvelle bérésina pour le parti d'Angela Merkel, c'est le fait que l'extrême droite allemande n'a plus aucun tabou, plus aucun complexe, quel que soit le poids de l'histoire propre à l'Allemagne. Et le pire, vous savez quoi? C'est que ça marche auprès des électeurs. Pour s'en rendre compte, il faut s'intéresser au chef de file de l'extrême droite dans ce land de Thuringe, en ex-Allemagne de l'Est. Il s'appelle Björn Höcke et c'est grâce à lui que le parti AfD a terminé deuxième de ce scrutin régional devant les chrétiens démocrates de la CDU en pleine déroute. Il y a encore quelques années, ce prof d'histoire, connu pour son sens de la provoque et ses prises de position ultra-radicales, aurait été très vite jugé infréquentable et mis au banc de la société allemande, mais plus maintenant. Et c'est peut-être ce qui est le plus nouveau et le plus inquiétant dans ce succès électoral. Björn Höcke ne cadre pas avec le reste de la classe politique en Allemagne. C'est un populiste pur jus, une grande gueule, comme il y en a tant ailleurs en Europe en ce moment, et son terrain de chasse, son sujet de prédilection, c'est le rapport complexe qu'entretiennent les Allemands avec leur propre histoire et leur identité nationale.
Alors, sujet très lourd, c'est le moins qu'on puisse dire, très lourd de sens en Allemagne, mais Björn Höcke n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat en fait.
Il s'est fait connaître du grand public avec ses propos polémiques sur le mémorial de la Shoah à Berlin, qualifié de monument de la honte. Pour lui, l'Allemagne doit tourner la page des crimes du Troisième Reich, fini l'autoflagellation, stop à la culture de la repentance. D'ailleurs, à bien y regarder, il n'y avait pas que du mauvais chez Adolf Hitler, c'est sérieux, c'est en substance ce que dit Björn Höcke, c'est ce qu'il défend avec le courant qu'il dirige au sein de l'AfD, l'aile droite du parti qui flirte dangereusement avec les néo-nazis. Björn Höcke et ses partisans ont d'ailleurs été placés sous surveillance par l'Office fédéral de protection de la Constitution qui est chargé de garder un œil sur les mouvements extrémistes. Ce qui est frappant et ce qui peut surprendre, c'est de se dire que ce discours rencontre un véritable écho. On pourrait penser que les électeurs d'ex-Allemagne de l'Est ont d'autres préoccupations aujourd'hui. La peur du déclassement, le manque de perspectives économiques, les questions migratoires. En tout cas, Björn Höcke ne semble pas du tout pénalisé par ces discours extrémistes. Preuve que certains tabous, certaines digues morales sont en train de s'effondrer au fur et à mesure que l'extrême droite s'installe dans le paysage politique allemand.
Mais Cyril, est-ce que ça veut dire que ce discours peut se répandre et devenir la ligne officielle au fond de l'extrême droite dans toute l'Allemagne ?
On n'en est pas encore là. Il y a un débat au sein de l'AfD sur la ligne politique à adopter et ce débat n'est toujours pas tranché. Les coups de menton de Björn Höcke ne font pas l'unanimité. Certains préfèrent miser sur les questions d'immigration, le rejet du pouvoir en place. C'est le positionnement anti-Merkel de l'AfD qui lui a permis avant tout de prospérer ces dernières années. Mais la ligne dure de Björn Höcke gagne du terrain. En septembre déjà, la tête de liste AfD dans une autre région de l'Est, le Brandebourg, était un ancien néo-nazi. Plus le temps passe, plus le parti penche vers la droite, ce qui ne semble pas gêner les électeurs. Dans l'Est du pays, en tout cas, la stratégie est gagnante. Mais cette extrême droite virulente et décomplexée joue avec le feu. Elle court le risque de libérer les instincts les plus sombres. Témoin, l'attentat début octobre contre une synagogue le jour de Kippour, attentat perpétré par un jeune militant d'extrême droite, néo-nazi, négationniste. Après cette attaque, Angela Merkel a promis la tolérance zéro contre la haine, intention louable. Mais dans les urnes, la chancelière et les partis traditionnels semble pour l'instant bien démuni.
Cyril Sauvageau et Le Monde à l'envers, tous les jours d'un jour dans le monde. Merci beaucoup. Nous, on reste ensemble pour le téléphone sonne comme tous les soirs. Juste avant, il y a le journal de Sébastien Paour. Merci de passer la soirée avec nous. Ne bougez pas.